Agora, c'est plus d'infos locales.
Tard, hier au soir, t'as rencontré les flicards. T'es déshonneur, t'aurais dû mettre un costard. T'as pas eu le temps de t'expliquer. Allez, hop, tu t'es retrouvé embarqué en garde à vue. En garde à vue. En garde à vue.
Coucou, nous revoilà. Donc, avant de parler d'un magnifique roman que je viens de finir et que j'ai vraiment adoré, Jacques, les actualités de l'éditeur Gigal.
Oui, dont on parlait juste donc avant la petite coupure. Et je voulais. Donc, il réédite en livre de en format poche. Un roman de Del Papas qui s'appelle Le cœur enragué, qui était paru il y a 2-3 ans, qui est aussi excellent. Mais surtout, un roman qui est remarquable, indispensable même, de Maurice Guiran, qui s'appelle L'Arménienne aux yeux d'or, qui raconte à travers le voyage d'un couteau, un poignard du trésor de Topkapi qui a été volé à la mafia turque. Maurice Guiran profite, si j'ose dire,
pour faire le point
et nous raconter le génocide arménien que certains
c'est vraiment celui-là voilà, un des meilleurs romans de Maurice Guiran.
Oui, il a vraiment il a un ton et ça reste un roman malgré tout
et pas une leçon d'histoire.
Voilà, mais un roman facile à lire qui est pas misérabiliste mais qui est important de lire qu'on devrait comme dit même l'éditeur qu'on devrait peut-être faire lire dans les écoles.
On va s'en charger. James Lee Burke, un des grands romanciers américains, une actualité chargée ce mois-ci, ou peut-être bien le mois dernier d'ailleurs, c'est peut-être une parution de février, puisque nous sommes en mars. Donc James Lee Burke, Jolly Blunt's Bounce, édition Rivage Thriller, je rappelle toujours que c'est la grande collection, une collection où pour la modique somme de 20 euros, je sais c'est cher, mais pour un chef-d'œuvre pareil, c'est vraiment pas grand-chose. C'est traduit, comme d'habitude, par Freddy Michalski. Oui. Excellente traduction, quelques petites fautes d'orthographe. Mais enfin bon, on ne va pas pinailler. Pour ceux qui ne connaissent pas, le héros récurrent, Dave Robichaud, un magnifique personnage, et une ville où se passent généralement les intrigues de James Lee Burke, New Iberia, en Louisiane. Donc Dave Robichaud exerce, tant bien que mal, sa fonction de flic. Et il tombe sur une horrible affaire, une jolie jeune fille, toute frêle et toute neuve dans la vie, Amanda Boudreau, 16 ans, est retrouvée assassinée après avoir été violée, dans des conditions totalement insupportables, bien évidemment. Insupportable pour Robichaud et sa coéquipière Hélène, insupportable de l'annoncer à ses parents, si digne, si noble dans leur souffrance muette. Alors, au début de l'enquête, les autorités, dont Dave Robichaud, d'ailleurs, soupçonnent un chanteur de blues, T. Bobby Olin, chanteur de blues cajun. Alors, je ne sais pas trop ce que ça donne, le blues cajun, mais ça n'a pas l'air mal. Celui-ci, ce chanteur de blues, il est complètement shooté et il est complètement paumé. Il nie vraiment, mais son attitude est plus qu'étrange. Et même la grand-mère, la jolie grand-mère Ladis, une noire dont le passé raconte bien bien des choses sur la Louisiane. La grand-mère va donc aider Robichaud. Elle a quand même bien du mal à croire en l'innocence de son petit-fils. Et la grand-mère Ladis, elle va aider Robichaud en lui dévoilant de très très vieilles histoires. Et ces vieilles histoires en particulier, y est mêlé, l'avocat de Olin, qui s'appelle Perry Lassalle, un nom qui sonne bon la France, hein, comme beaucoup de noms en Louisiane, héritier des propriétaires terriens qui exploitaient les Noirs bien après l'abolition de l'esclavage. L'attitude de Perry Lassalle est vraiment plus que suspecte, surtout lorsqu'il va protéger un type très, très, très étrange qui s'appelle Légion ou Légionne, je ne sais pas trop, Guidry, qui était l'ex-contremaître de son grand-père. Ce type, c'est carrément, on va aller fort dans les mots, c'est une véritable personnification du mal, qui violait les, entre guillemets, négresses, hein, comme on les appelait en ce jeune temps, et qui semble puiser sa force et bizarrement une certaine invincibilité, alors qu'il a maintenant 75 ans, dans le diable lui-même. C'est très bizarre. Et tout au long de ses investigations, Dave, le flic, va le retrouver omniprésent. Et en fait, il va être bien près de tout lâcher un moment, tant cet homme éveille en chacun, et donc en particulier chez le policier, les instincts les plus bas et les plus vils. Et autour de ce type, autour de Guidry, beaucoup de personnages rôdent, se battent, se déchirent, et sont donc autant de suspects. Et dans cette aventure, le chemin va être très très long, très très rude, et comme on dit dans la littérature, au moins dans une certaine littérature, pavé de violence et de sang. Avant que les hommes de loi puissent emporter la partie contre des forces qui semblent carrément démoniaques. Mais malgré tout, c'est pas un roman de science-fiction, ces forces sont totalement humaines et ça se déchaîne sur cette ville de New Iberia. Alors comme à son habitude, le romancier dans ce roman, pardon de littération, malmène son héros. Robichaud souffre pour les autres, pour les victimes, pour ses amis. Un de ses grands amis, c'est Clyde Purcell, qui est un ancien flic qui a un métier bien américain, qui est celui de récupérateur de fonds pour quand il y a une caution à récupérer et qu'un type se fait la valise. Mais il va surtout se battre contre lui-même et contre le, comme il dit, ver blanc qui lui grignote le cerveau quand il est en manque d'alcool. Dave Robichaud fait partie des alcooliques anonymes et se bat contre ce problème depuis, on va dire, des romans et pas des années et des années.
Ouais, bah, pratiquement depuis le premier.
Voilà, depuis le premier. Il doit se battre aussi contre la violence intrinsèque qu'il doit contenir pour rester du bon côté quand même, malgré tout. Même s'il sait, comme son créateur, qu'il n'y a pas de bon et de mauvais côté. Simplement des destins qui font passer les marionnettes humaines d'un côté à l'autre. James Lee Burke, j'ai envie de dire que c'est l'écrivain de l'ombre. Celle qui semble régner sur les bayous, malgré la lumière de la Louisiane. Celle qui hante les noirs d'un passé de misère. Mais quand je dis misère, il n'y a même pas de mots. L'ombre aussi qui obscurcit la vie des héritiers, des exploitants. Parce qu'ils ont quand même aussi un passé lourd. Et celle, enfin, cette ombre qui se tapit en chaque être humain. Qui fait que, et là je cite l'auteur, peu importe le niveau de haine et de malfaisance que révèlent leurs crimes et leurs actes, au moment où ils le commettent, les humains ont le sentiment de faire très exactement ce qu'on attend d'eux qu'ils fassent. Et ça, je trouve ça très très fort. Pourtant, malgré tous ces malheurs, toute cette ombre, au fil des pages, on est illuminé vraiment par l'humanité qui transpire de chacun de ces mots, de chacune de ces phrases. C'est un magnifique roman. Je rappelle le titre, Jolie Blonde Bounce, traduit de l'anglais par Freddy Michalski, édition Rivage Thriller, l'auteur, un grand auteur, James Lee Burke.
En fait, ça s'écrit Jolie, comme en français, Blond, B-O-L-O-N, apostrophe S, Bounce.
Tu pourrais me demander, mais d'où sort ce titre ?
Oui, par exemple.
Eh bien, c'est le titre qui est en train d'enregistrer le chanteur de blues dont je vous ai parlé, qui s'appelle T. Bobby All-In, et qui est, en gros, sa seule chance de rédemption dans le livre. Voilà, eh bien, justement, ben, parlant de musique.
C'est pas ce titre-là qu'on va écouter. C'est un chanteur de blues, pas cajun. Il est du Mississippi. Il a commencé...
Pas cajun, tu l'écris comment ? Il n'est pas cajun ou il n'est...
Bon, voilà, enfin... Il n'est pas cajun aussi, oui, effectivement. Ouais. Enfin, maintenant, il est mort, le pauvre. Il a commencé sa carrière comme ouvrier agricole et pour se faire un peu plus de sous, il jouait un peu dans les bouges le soir de la guitare.
Comme certains personnages, pardon, du roman dont je viens de parler.
Voilà. Au début, il s'accompagnait dans les années 60 d'une guitare acoustique et il a eu un revival, n'est-ce pas, dans les années 90, car ses nouveaux titres ont été publiés par un label punk qui s'appelle Fat Opossum. Et son blues...
Donc je ne dirai pas la traduction de notre technicien favori.
Voilà, ben, on ne le dira pas donc. Et son blues est devenu à la fois plus électrique, un peu plus agressif, mais néanmoins rempli d'un grand feeling. Comme vous allez pouvoir le constater, le morceau s'appelle « Poor Boy ».
On va répéter peut-être le nom du musicien.
Voilà, il s'appelle R.L. Je sais pas ce que ça veut dire. Je crois que c'est Rural Louis, mais je suis pas sûr. Burnside.
Voilà, et comme il ne faut pas faire de private joke à la radio, je vais cafeter donc la traduction de Philippe, notre technicien, qui tout à l'heure a traduit, très justement d'ailleurs, le terme fat opossum par grosse loutre, qui apparemment était en usage dans les bals populaires de sa post-adolescence. Voilà, vous savez tout. Donc, avant de passer la parole à Jacques, je voudrais vous lire un passage de Jolie Blonde Bounce qui parle donc de la condition des ouvrières noires dans les champs de piment et qui parle en particulier, qui décrit comment les jeunes Guidry, cette incarnation du mal, les traitaient. Et attention, ce que je vais vous lire, ça ne décrit pas la situation au moment de l'esclavage au XIXe siècle, c'est dans les années 60. Donc voilà ce que faisaient les jeunes Guidry. Il faisait sortir du champ les filles et les femmes dont il avait envie, indiquant d'un signal de la tête à l'une d'elles de suivre son cheval jusque dans un hallier de canne ou un bouquet de pin, où il mettait pied à terre avant de se dévêtir complètement. À celle sur laquelle s'était porté son choix, il disait alors d'ôter ses sous-vêtements, de s'allonger et d'écarter les jambes en termes aussi cliniques et déshumanisés que la violence dont il faisait montre dans sa copulation, libérant ses instincts d'animal et plongeant en elle le torse raide en appui sur ses bras tendus, comme s'il se refusait à toucher plus qu'il n'était nécessaire le corps soumis à son caprice. À la suite de quoi, la fille ou la femme devait le laver. Ses victimes disaient qu'il avait le corps aussi rêche qu'un cuir d'animal, balafré par des cicatrices de coups de couteau, l'intérieur des avant-bras bleui de tatouages, semblables aux silhouettes noires et blancs, grossièrement crayonnées des dessins animés de jadis. Puis vint le jour où son regard se posa sur Lady Helene. Les autres ouvrières, pliant en deux au-dessus des massifs de piment, ne relèvèrent pas la tête, tant la peur leur serrait le ventre, sous le soleil et la chaleur cuisante, les doigts gonflés de cloques, tandis que grandissait le nœud de douleur au bas de leurs reins à mesure que s'étirait la longue après-midi. À l'aide de sa robe, Lédis essuya la poussière et la sueur qui lui maculaient le visage et se dirigea vers le bouquet de gommiers au milieu duquel un buisson d'épineux, au feuillage vert sombre, éclatait de fleurs rouges pareilles à des gouttes de sang dans l'ombre brûlante. Voilà la condition des ouvrières noires il y a même pas 50 ans. Et ça tilte quand même énormément quand la plupart d'entre nous ont vu que finalement, bien sûr, on espère que ça a bien changé, mais quand un ouragan passe sur la Louisiane qu'il s'appelle Katrina et qu'on laisse les Noirs, particulièrement les Noirs, sur les toits des maisons, on se dit qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. On va terminer par un livre américain, Jacques.
Voilà, qui se passe de nos jours, de Larry Beinhart. Le roman s'appelle « Le bibliothécaire ». Il est paru à la série Noire, donc c'est la nouvelle formule. Il vaut 24 euros et il est traduit par Patrick Carrère. Le bibliothécaire, donc, c'est David Goldberg. Il travaille dans l'université de Washington et il est embauché par Alan Stowe pour prendre en main sa bibliothèque personnelle. Il va classer, scanner, archiver tous les documents qu'elle contient. Et Goldberg va très vite se rendre compte que des documents, il y en a à foison, car ce Stowe détient des informations sur un peu tout le monde et il a tout gardé, du simple quidam qu'il a escroqué au notable qu'il tient à sa botte. Ce Stowe est en plus le principal soutien financier du candidat républicain pour sa prochaine réélection. Dans ce roman, ce candidat républicain s'appelle Scott, mais sa ressemblance avec un certain George W. Est flagrante, c'est lui. La présence de Goldberg donc dans cette entre, si j'ose dire, du libéralisme ultra-réactionnaire, ou de l'ultra-libéralisme réactionnaire,
ça revient au même,
va faire peur au comité de soutien. Et ils vont décider d'éliminer Goldberg parce qu'ils se sont dit, en fouillant dans tous ses papiers, il a bien dû voir des choses qu'il ne devait pas voir. Et ils vont d'abord chercher à le discréditer, puis carrément à l'assassiner. Le tout en utilisant les services de l'État, l'Agence nationale de sécurité et quelques barbouzes à peine débarqués des services secrets.
En général, on ne fait pas dans la dentelle dans ces services-là.
Donc là, ils ne se gênent pas. Le pire, c'est que pour ces gens-là, le candidat adverse est une femme.
Oh, quelle horreur!
Alors, ça serait une communiste, ça serait pas pire, quoi, pour eux. C'est vraiment le...
Une femme communiste?
Ben non, elle est pas communiste, mais elle, c'est une femme, ça serait vraiment, voilà. Et donc, pour assurer la victoire de leur camp, Ils sont prêts à tout, jusqu'à, au hasard, truquer une élection dans un État ami, un État du Sud, peut-être pas la Louisiane, mais enfin, par exemple, voilà.
Tout personnage ou événement se relatant à une certaine
Ou même réalité. Éventuellement à simuler un attentat terroriste pour ainsi rétablir l'ordre ou empêcher, par exemple, les Noirs d'aller voter parce que la police doit maintenir la sécurité dans ces États. Voilà.
Chose que ne saurait penser un gouvernement américain, n'est-ce pas ?
Voilà, donc ça c'est pour le pitch, hein, comme ils disent sur Canal. Mais ce roman, en fait, c'est un véritable thriller. Larry Beinhart est un spécialiste. Il avait déjà écrit un roman avant qui s'appelait Reality Show, dont on a tiré le film Des hommes d'influence avec
Dustin Hoffman
et Robert De Niro, où ces mecs créent carrément une guerre pour empêcher de dire que le président il avait eu une coucherie, enfin un truc comme ça. Vous avez peut-être vu le film. Là, l'auteur manipule très adroitement le lecteur et il le fait suivre ce simple bibliothécaire qui devient, par la peur, aussi habile qu'un Marines, sans compter qu'il est aidé par deux femmes. Et du coup, il a l'intelligence.
Et il va être sauvé, donc forcément.
Il a l'intelligence en plus, c'est ce que j'allais dire. Mais ce roman, ce qui est surtout sa force, c'est qu'il démontre de façon argumentée la mainmise des lobbies du pétrole, des armes et des ultralibéraux et des religieux sur la politique du gouvernement de George Bush, ici Scott.
Voilà, je suis désolée, je vais t'interrompre. Apparemment, c'est un excellent roman, mais ça va bientôt être terminé.
Voilà.
Donc on va rappeler...
Le titre, Larry Beinhart, le bibliothécaire à la série noire.
Excellent roman.
Agora nous donne l'heure. 19h sur Agora FM. Bon appétit à tous. De l'info locale.